Donc, bonsoir, on va commencer la présentation du MIG ce soir. Donc, je ne sais pas si vous êtes habitués tous au MIG. Donc, c'est les mardis informels de la Générale qui se tiennent tous les mardis de manière informelle et à la Générale. Et donc ce soir, donc on a régulièrement des présentations, discussions autour de projets ou de livres ou de théories, d'actions qui croisent différents champs comme donc entre l'art, les technologies, la science et les questions écologiques. Et donc, voilà, pour ce soir, donc c'est Gwenelle Plédran qui vient nous parler de fermentation. Alors, toi, Gwenelle, tu étais en résidence en mars de cette année à la Générale, où tu as donc travaillé sur le terrain du quartier pour faire des cartographies locales utopiques. Tu vas nous raconter ce que ça signifie, ce que tu as produit. Et donc tu as à la fois fait des expériences de fermentation et des cartographies du quartier.
C'est ça, donc l'idée c'est de pouvoir revenir sur l'histoire et l'expérience qui a été menée à la Générale donc sur la durée du mois de mars. J'ai un travail entre l'art, la science et le design, plutôt avec une formation d'artiste, pas de biologiste, pas de scientifique. Donc j'approche la fermentation vraiment du côté expérimental. Donc l'idée en venant travailler à la Générale, c'était à la fois d'avoir un lieu fixe d'expérimentation et puis d'avoir un point d'ancrage en fait sur le territoire, et de pouvoir se dire finalement à partir de ce point d'ancrage comment s'interroger sur le lieu, comment s'interroger sur ce qui se passe autour, quelles sont les limites du lieu dans lequel on est. Et la fermentation, ça m'a servi à la fois de méthode et de moyen d'expérimenter la Générale et le quartier autour, à tout par cercle concentrique. Et j'ai travaillé donc en termes de réalisation à la fois sur des expérimentations de fermentation, on va être plus précis, puisque du coup j'ai travaillé vraiment sur une volonté de travailler sur du vin. Tout n'est pas aujourd'hui, tout ne pourrait pas s'appeler aujourd'hui vin, mais au sens strict du terme, mais l'idée de démarrage c'était vraiment ce côté boisson, convivialité et goût autour d'une méthode de digestion des sucres. Et en même temps, cartographier le quartier. Alors, on parle de cartographie, on connaît les plans de quartier, les plans des rues. Donc ça, c'était un point de démarrage. C'est-à-dire, on a des rues, on a la Générale, il y a des rues autour qui forment le 14e arrondissement. L'arrondissement est inscrit dans la ville de Paris. Mais en même temps, ça a dépassé... Ça a dépassé ce repérage de rue et de lieu pour faire des fermentations elles-mêmes une façon de cartographier le territoire et une façon de rendre finalement le 14e arrondissement et son environnement dans une bouteille. Voilà. Alors pas du tout, moi j'habite dans le 18e, donc c'est pas, à la fois c'est pas super loin, et en même temps il y a eu une vraie redécouverte du quartier et de finalement ce que ça signifiait d'être d'un quartier ou de repérer un quartier. Donc vraiment le 14e, j'ai découvert dans sa vie locale, j'ai complètement découvert. En même temps, j'étais pas complètement perdue, il y a tout un système de rues, de métro, de transport, de météo, qui était la même que dans le 18e, ou approximativement la même. Et en même temps, quand on se pose la question de comment... qu'est-ce que ça veut dire qu'être local, qu'est-ce que c'est que fermenter local, il a fallu redécouvrir Les plantes qu'il y avait dans le quartier, les légumes qu'il y avait dans le quartier, est-ce que ça pousse, est-ce que ça s'achète dans le quartier et à partir de quel système on considère qu'on est local? Est-ce que c'est parce qu'on va faire dans le quartier? Est-ce que c'est parce qu'on va trouver les ingrédients dans le quartier? Est-ce que c'est parce qu'on va utiliser les systèmes et les réseaux du quartier? Et toutes ces questions, elles ont traversé l'ensemble de la résidence et les différents points de fermentation qui sont déjà... bien un ingrédient à fermenter, donc il faut trouver des légumes ou des fruits, donc notamment de saison. Première entrée, voilà, faut pouvoir, faut que la denrée de départ existe. Et ça, c'était la première recherche dans le quartier, que cette denrée, elle soit le plus locale possible. Donc il y a des choses qui sont venues du jardin potager de la Générale, de la MAP de la Générale, et si on procède par cercle concentrique de Au Bout du Champ, qui est un magasin qui travaille justement sur ce côté local, qui est rue de la Guerre, et qui a fourni une grosse partie des denrées qui ont servi. C'est vraiment un système de cercle concentrique et être au plus près. Mais on se rend bien compte qu'en étant dans Paris, il y a tout un système d'approvisionnement qui ne peut pas se faire en ultra local ou en étant sur place, et c'est tout ce système-là de réflexion qui m'intéressait plus globalement dans cette cartographie de quartier, puis dans cette réflexion autour de l'alimentation. Parce que le projet, en fait, il prend ce local comme point de départ et il vise non pas à produire du vin, hein, c'est ce que je disais au départ, moi je suis plutôt artiste de formation, designer, et je ne vise pas à produire du vin en grande quantité ou à devenir... fermentrice de façon large, c'est vraiment des expérimentations qui sont produites, mais plutôt à produire des systèmes critiques sur notre alimentation et notre façon de vivre aujourd'hui dans une ville, notamment une ville relativement globalisée.
Juste pour continuer sur cette histoire de cartographie du quartier à travers la fermentation, il y a un truc très, très intéressant, c'est qu'en fait tu parles de regarder le quartier depuis le microscope ou depuis des acteurs qu'on peut observer au microscope et donc les microbes et est-ce que tu peux en dire plus en fait sur cette relation disons échelle humaine et échelle microscopique à travers la fermentation parce que c'est un axe qui est assez intéressant dans l'articulation que tu poses, en fait.
Et il y a tout un système de poupées russes, en fait, qui se met en place. On va peut-être revenir sur, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une fermentation au sens biologique. Je ne vais pas le faire trop, parce que je ne maîtrise pas l'ensemble des systèmes biologiques, mais juste pour que ce soit partagé par tous, une fermentation, c'est des micro-organismes de différents types qui vont digérer des ingrédients en place et produire par leur digestion, à la fois du CO2 et un certain nombre d'éléments en transformant le goût des aliments en présence. Donc si on prend le vin qui a été produit ici, donc du coup c'est une fermentation alcoolique, c'est des micro-organismes qui s'appellent des levures, qui digèrent des sucres, et qui par la digestion des sucres vont produire de l'alcool et du CO2. Donc ce système de fermentation et de développement bactérien, en fait, il est spécifique à chaque lieu. C'est des micro-organismes qui sont présents dans l'air, dans l'eau ou directement sur le fruit ou sur le légume qui vont se développer. Donc ça, c'est un système qui marche sur ce qu'on appelle la fermentation sauvage.
Je pense que je suis un peu sourde.
Je vais parler plus fort.
Parce que je n'entends rien ou mal. Donc je peux imaginer que là, ça n'entend rien du tout.
Ça va,
c'est moi qui
suis
sur le...
Il y a un
bois,
il y a
un truc. Non, mais c'est
là. Non, mais je vais faire un effort. Je parlais fort. Donc ce système de développement bactérien, en fait, ça se produit à partir des micro-organismes qui existent soit sur les fruits et les légumes, soit dans l'air, soit dans l'eau. Il y en a partout autour de nous, sur nos mains, dans l'air, partout. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une fermentation sauvage. Enfin, dans les expérimentations que je mène, et puisque c'est le local qui m'intéresse, je fais le choix de ne pas ajouter de levure ou de ferment en sachet ou en préexistant. Pas de ferment sélectionné, notamment. Donc peut-être du coup, il y,
y a vraiment ce côté mettre en condition et développer le local dans cette expérimentation-là.
Tu as mis du sucre en plus, là.
Ouais, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Eh, mais c'est pas un, le sucre n'est pas un ferment. J'ajoute
c'est
pas,
local, c'est ça.
Je n'ajoute pas de micro-organismes. C'est vraiment ceux qui sont présents qui se développent.
Ah oui, ce sucre ajouté.
Et donc du coup, dans ce côté vie, en fait, dans un bocal, pour moi, il y avait une correspondance qui se produisait entre ce qui pouvait être de l'ordre de la collaboration et de la vie dans le bocal avec notre système de vie de quartier et notre système plus global, au-delà du quartier, de collaboration économique, écologique, d'échange. Donc, je joue les poupées russes en fait, à différents endroits et les systèmes comparatifs. C'est pour ça que j'imaginais les cartographies.
Cartographies que tu as là ?
Alors, c'est les cartographies que j'ai là. Et en fait, c'est là où vous avez... Alors, on va recommencer par celle d'en dessous. On parlait des cartographies au sens plus classique du terme. Donc là, j'ai un plan qui est vraiment un plan de la ville de Paris, avec les différents arrondissements sont délimités, le système de rues, de parcs, de routes.
Tous les axes principaux.
Oui, effectivement.
Comme un peu comme les veines et les artères.
Mais là, ça fait déjà assez rhizomatique comme ça.
Non, mais tu donc parles des parcs, on ne voit pas les parcs. On voit
non,
les...
c'est des plans cadastraux. J'ai joué sur ces plans-là à différentes échelles. Donc, c'est vraiment ce côté ville, quartier, place générale.
Comme Fred, parce que là, il a l'habitude de faire ce genre de
présentation.
Vas-y, fais voir quand il fait bien.
De la même façon, on peut superposer les plans. Il y a l'eau,
hydrographique.
Donc ça, c'est les questions des pentes, en fait. Les pentes sur Paris qui permettent un drainage des eaux.
On ne connaît plus du tout, là.
Donc on a une image qui ressemble plutôt à un réseau de canaux rouges, de couleur rouge.
Ça représente quoi ?
Les pentes et
les
le système
pentes.
De drainage.
Oui, les pentes, c'est topographique. C'est pas hydrographique, c'est topographique.
Et ouais, c'est toutes les pentes et drainages des eaux.
Les pentes et les drainages des eaux.
L'eau est un essentiel à toute fermentation.
C'est Paris, là.
Ouais.
Paris et... Ça, c'est la,
ça, c'est la Seine,
là. Super carte.
Je cherche belle ville, je trouve pas.
Là, Montmartre.
Montmartre, ça doit être plus haut, parce que ça, c'est la Seine.
Ah non, ça, c'est la Seine.
Donc ce qui est drôle, c'est qu'on perd complètement, enfin à la fois on comprend qu'il y a un système d'irrigation d'eau et de réseaux qui se tissent sur le territoire, mais en même temps on perd complètement la notion et d'échelle et de lecture d'une cartographie. Ça, c'est des éléments qui m'intéressaient. Et,
qu'est-ce que je suis censée regarder là ?
Ça, c'est l'échelle,
ça, c'est l'échelle quartier, arrondissement.
Oui, mais qu'est-ce que j'y vois ?
Alors la même chose que si vous regardez n'importe quel plan d'arrondissement,
ouais,
c'est
voilà.
Un processus de travail qui est parti...
Un document brut, on va dire.
Ouais, ça, c'est un document brut. Du coup, relevé cadastre avec les bâtiments et...
Tu dis cadastre...
C'est plan
cadastre,
hein.
C'est pas ça. Cadastre, c'est... Là, c'est plutôt un plan de plein et vide du bâti. Cadastre, c'est un plan légal qui dit ça m'appartient, ça t'appartient. Là, on voit le bâti, on voit les places et le bâti. C'est pas grave, on prend quel cadastre.
De données publiques, du coup, il n'y a pas les propriétés.
Non, c'était marqué pour cadastre, et là, je vais avoir. Mais voilà.
Donc, c'est vraiment. Enfin, c'est des plans sur lesquels moi, je n'ai pas du tout. Enfin, sur lesquels je ne suis pas intervenue. C'est mes éléments de recherche, de prélèvement de départ pour arriver à comprendre comment différents réseaux se mettaient en place dans la ville et sur lesquels j'ai greffé. Une réflexion autour de la fermentation et une comparaison de systèmes, donc le bocal, la ville et troisième échelle de comparaison qui est la digestion, donc avec
des plans qui prennent la forme de dessins plutôt sur un mix entre comparaison et imaginaire sur le système digestif de la vache, de l'oiseau et du loup.
Vache.
Loup.
Loup.
Loup en rouge, donc système de digestion rapide, puisque le loup en fait il est à la fois carnivore, mais que pour s'alimenter il se déplace rapidement, donc il digère vite, il mange peu et il digère vite. Petit estomac, digestion rapide.
Ça représente
son système digestif, estomac.
Son estomac
et donc vache, 4 estomacs. Donc la vache en.
Ça c'est la vache en vert.
Ouais. La vache, elle a un système de digestion en 4 estomacs, donc un système plus lent. Elle digère très très longtemps, elle rumine, elle filtre, elle digère au sens microbien du terme, c'est-à-dire qu'elle va permettre aux micro-organismes qu'elle a dans l'estomac de digérer les plantes et filtrer une deuxième fois. Donc elle a vraiment tout un système qualitatif et local.
Et ça signifie quoi? Ça représente quoi?
Ça, c'est des essais graphiques de représentation.
Ça n'est pas un lieu particulier.
Non, ornementation.
Bonsoir.
Je m'appelle
Jeanne. Bonjour. Ouais, c'est intéressant de t'entendre parler de sa capacité à digérer vite parce qu'il se déplace vite. Donc il y a un rapport. En plus, c'est plutôt un carnivore, mais bon.
Il va chasser, donc en fonction du besoin alimentaire, il va se déplacer sur le territoire et digérer. Enfin,
donc il y a un système de digestion.
Il a un système de digestion adapté à la fois à ce qu'il mange et aux ressources du territoire.
Les poules.
La vache, du coup, elle a un autre système qui est plus ancré et plus local. Donc déjà, elle ne trouve pas la même fois, et du coup, elle va manger l'herbe de son pâturage, mastiquer, filtrer, digérer. Et
tu n'as pas poussé jusqu'à analyser les excrétions de ces animaux?
Non.
Non. Ça ne fait pas partie de ce sens d'intérêt, parce que il y a aussi une fermentation, une preuve
de fermentation, effectivement, parce que tout le système digestif, c'est la fermentation, je sais pas poussé. Je suis pas allée analyser les.
Le volumétrique, ça ressemble à peu près à ça.
À peu près à ça, ouais. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est la transposition graphique et la transposition de système.
Mais là, par contre, le truc qui me trouble un peu, c'est que là, on voit l'entrée, une entrée et une sortie.
Oui, c'est ça.
Et là, il n'y en a pas, non ?
Il n'y en a pas. C'est
pas forcément, il y en a.
Ouais. D'accord, c'est ton interprétation.
Donc il y a un travail effectivement d'interprétation graphique.
Et alors le bleu, c'est quoi ?
L'oiseau.
Ah, l'oiseau. Et lui, okay. Il a trois parties alors.
Et bien, il a effectivement trois parties. Donc il y a un œsophage qui est très extensible. Un œsophage ? Ce qu'il récupère, donc c'est proie qu'il ne mâche pas. Hein, il l'avale et c'est les sucs gastriques qui vont digérer les aliments. C'est un système qui lui permet de voler. Plus c'est.
Parce que c'est léger.
Il est léger, il a besoin de cette masse corporelle légère et cet appel d'air pour vous. Ça, c'est une recherche qui est encore en cours, hein, mais sur ce système de transposition et de poupées russes, j'ai des cartographies qui sont à la fois. Donc des analyses de quartier à partir de plans téléchargés de données réelles, une transposition graphique sur différents systèmes de fonctionnement et
puis l'idée qu'il y a une contextualisation des systèmes de digestion. Il y a un contexte par rapport à
une activité, effectivement, on digère à la fois parce qu'on a certains besoins vitaux et aussi parce qu'on a certaines données de territoire.
On consomme certaines choses et puis surtout peut-être on vole pas, etc.
On est carnivore ou on l'est pas.
Oui, c'est ça, mais l'être humain a des activités diverses. Il peut courir, marcher, voler et moins. Et donc il adapte, sa nourriture en fonction de son.
Alors activité. Ça c'était l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on devrait nous aussi adapter notre alimentation à nos modes de d'alimentation, la façon dont on imagine nos systèmes, notamment d'approvisionnement alimentaire, de fabrication alimentaire, en fonction à la fois de nos besoins et des conditions de vie qui sont existantes aujourd'hui, et surtout sur celles qui vont advenir dans le futur. Et là, c'est toute la question de remettre la fermentation comme modèle au centre d'une façon de s'alimenter, puisque la fermentation, c'est un système de transformation alimentaire qui est extrêmement économique en énergie. Vous mettez en bocal avec sel ou sucre ou autre, mais il n'y a pas de besoin énergétique, il n'y a pas de besoin d'apport en énergie, pas de réfrigération, pas de cuisson, et qui permet de conserver des aliments longtemps.
Oui, ça c'est vrai, c'est très important.
Voilà, et qui permet de retrouver à la fois des goûts, des textures, des façons de bénéfiques aussi pour le corps, en étant très, très low-tech.
Et bon, c'est un peu hors de nous, mais est-ce que les cuisiniers actuels semblent quand même tenir compte de ces études qu'ils les réalisent de façon spontanée ou plus assise, mais...
Il y a beaucoup de cuisiniers
qui ont... Peut-être moins, mais les orientaux ou les extrêmes orientaux plus.
Bah, la fermentation, déjà, c'est vraiment un système qui existe depuis extrêmement longtemps. Il y a des hypothèses que la fermentation serait apparue avant le feu. Donc on aurait fermenté, même de façon hasardeuse ou expérimentale, avant de connaître le feu.
Oui.
Après, ça s'est revenu dans les cuisines et dans les expérimentations des cuisiniers de toute catégorie, avec les préoccupations écologiques et avec les préoccupations de goût. En France, on a Yannick Aleno qui a mené beaucoup d'expérimentations dans ses sauces sur des goûts spécifiques en fermentation. On parlait de localité et de goût de la fermentation liée au terroir de façon extrêmement spécifique, mais lui, c'était son parti pris aussi, et un céleri d'Île-de-France n'aura pas le même goût qu'un céleri du sud de la France ou un céleri de Bretagne. À partir de là, on peut diversifier les goûts dans la cuisine, ou alors revendiquer une production ultra locale. En même temps, toutes les productions du terroir de façon traditionnelle depuis longtemps sont aussi des fermentations, donc le pain, le vin, tous les alcools, le fromage, tous les condiments, vinaigre, cornichons, olives.
Moutarde.
Enfin, ça, c'est pour la partie plus occidentale, mais les miso.
Oui.
Ah, donc, c'est un croisement entre le goût et la conservation.
Donc, tu prétends que le feu est arrivé après ? Bien sûr, ça
peut être évident. C'est une hypothèse. Moi, je n'ose pas prétendre.
Je vais poser la question sur le feu. Vous connaissez
le feu arrive bien avant que
la date de découverte du feu par l'humanité.
On la connaît. Moi, j'avoue, je ne sais pas quelle
est la date. Et la fermentation, ça, tu en connais aussi ?
800 000.
C'est daté, ça ?
Les traces de fermentation qu'on retrouve en céramique, c'est 12 000, 13 000, c'est sur les céramiques. Oui, mais il suffit un compte. Le feu précède quand même largement. Je fais de la préhistoire du coup, donc tu vois, je me permets. Mais ça précède de très très loin.
La fermentation, après, tu veux dire
Le feu d'abord.
Le feu d'abord.
Précède la fermentation.
La plus vieille date, c'est moins 800 000.
Pour le feu,
on n'est pas certain.
Ouais. Par l'humanité.
Oui, par l'humanité.
800 000
avant notre ère. La plus ancienne hypothétique, sinon c'est 400 000. Et la fermentation, c'est plutôt 12-13 000. Mais parce qu'il y a des contenants, effectivement.
Mais de façon maîtrisée. En fait,
de façon semi-maîtrisée, mais dans les traces, dans des contenants, en fait, la fermentation.
La fermentation.
Qui est quand même déjà très très vieux, hein. 12 000 ans, c'est costaud.
Ouais. Bah,
dès qu'on stocke, on fait de la fermentation, ça c'est sûr. Avant, peut-être, ouais, dans des tressages de la vannerie, c'est possible, hein, je pense. Ça, je sais pas.
En bois, bon, bah voilà, on a une réponse. Merci, c'est super.
Donc l'hypothèse tombe.
Ouais, c'est peut-être.
L'hypothèse tombe.
Non,
après, non, enfin, ça.
Pas
ça...
On vient de dire récipient en bois, ça pourrait marcher, mais c'est juste qu'il n'y a aucune preuve. Voilà, c'est qu'on n'a pas de traces, mais par contre, c'est très possible.
Ouais.
enfin moi ça m'étonnerait pas.
Ah, que pour toi ça pourrait procéder à l'invention du feu.
Moi je suis assez d'accord que c'est des procédés.
Après ça change pas enfin, l'idée quoi, c'est des processus effectivement très anciens et que du coup ça appartient à une histoire aussi.
L'invention du feu, c'est pas d'ailleurs le fait de conserver quelque chose, c'est conserver le feu, c'est ça hein, finalement.
Ouais.
Comme conserver avec le.
C'est encore une autre question parce que conserver le feu c'est très chiant.
Et quand on dit quand on parle de l'invention, enfin moi je sais pas si c'est l'invention du feu, je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est pas l'idée de. Parce que les feux naturels, ça a dû exister.
C'est plutôt le déclenchement, quoi. Après la conservation.
Ah, d'être capable, déclencher.
Conservation, c'est autre chose.
C'est sûr.
Moi j'aurais une question sur le lien du coup entre que tu as trouvé entre ce procédé de fermentation et la vie de quartier, les deux sont là, mais qu'est-ce que pendant ce mois-ci là t'as vraiment vu faire un lien entre les deux?
Alors, du coup, pour moi c'est vraiment une histoire de comparaison entre les deux. Dans le quartier, je suis partie vraiment à la recherche de comment on mangeait. Qu'est-ce qu'il y avait comme aliment, comme épicier, comme ressource en fait, comme prétexte de faire du vin. Et partir à la découverte de où étaient les points ressources du quartier. Je suis pas allée très très loin physiquement, je suis essentiellement allée sur le marché qui est sur la place juste au-dessus. Et rue Daguerre qui est plutôt une rue commerçante avec des magasins qui ont pignon sur rue. Ce côté deux façons de s'alimenter. Ça, c'est des choses qui m'intéressaient. Et puis se poser la question de quelle vie, quel côté vivant de quartier il y avait, quels étaient les moments où il y avait du monde, de l'agitation, des regroupements. Donc ça, c'est différentes expériences que j'ai fait au fur et à mesure de ma découverte du quartier. Jouer à la pétanque et prendre l'apéro. Aller au marché, manger sur place, récupérer les invendus de bout du champ et fermenter à partir de ça. Rencontrer, alors ça c'est plutôt des rencontres, moi j'ai pas participé à la redistribution, mais j'ai rencontré une personne qui s'occupe d'une redistribution alimentaire des commerces de quartier auprès des étudiants. La rencontre aussi des fromagers. La rue Daguerre, qui du coup, eux, ne sont pas tout à fait sur un processus de fermentation dans le 14e, mais ils affinent leur fromage dans un local dans la rue Daguerre. Donc vraiment, ce système de correspondance et de recherche de où étaient les systèmes d'alimentation, les systèmes conviviaux et les fermenteurs de quartier. En étant, je pense qu'on peut mener cette recherche beaucoup plus largement que ce que j'ai fait. Moi, je me suis arrêtée aux quelques rues qu'il y avait autour.
Moi, j'ai une question sur cette analogie entre un quartier. En fait, un quartier, donc, c'est-à-dire une partie de la ville, un moment délimité, sur un type de fonctionnement qui est déjà macro, on va dire, et le système digestif, d'une certaine manière, ou en tout cas le processus actif de la fermentation. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, ce qui m'interroge là-dedans, c'est... c'est quoi la métaphore qui est tissée en fait quand on se met finalement à mettre les deux en relation? Est-ce que c'est la ville qui est une sorte de système actif en fait qui en fait transforme en fait un... Et donc est-ce qu'on cherche à y voir finalement un système, enfin je pense ce système actif, en quoi le 14e, enfin, un système actif qui va transformer et en quoi justement peut-être ce que je trouve intéressant c'est le fait de se dire, tiens, dans le point de vue local, en fait, on va y voir déjà certaines failles, c'est-à-dire des choses effectivement qui font que ben, c'est pas un système qui tourne en soi de manière autonome, hein, qui est connecté à différents endroits, etc. On va dire, par creux, en fait, on va voir finalement, c'est un peu la question que je me pose, quoi. Et la deuxième, c'est justement voir toutes ces interactions, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai l'impression que c'est une façon d'aiguiser le regard sur une perception, justement, de toutes ces petites interactions qui nous échappent souvent. Ce que je me demandais, c'est justement, est-ce que c'est ça un petit peu l'objectif de la cartographie, finalement, c'est de souligner, de glaner en fait ces interactions, ces petits processus actifs entre différents voilà, Là, tu parlais des étudiants, des stocks de magasins. J'ai l'impression que ça dessine une sorte de système en soi, où on peut, enfin, voilà, sans vouloir faire une métaphore mécaniste hein, entre la ville, mais plutôt de se dire, ouais, effectivement, il y a ce rapport-là, puis j'aimerais bien qu'on pousse en fait cette chose-là, ou en tout cas qu'on nous raconte, peut-être dans la poursuite de la question qui était juste avant, certaines conclusions que tu as pu en tirer, ou des observations qui t'ont touché, peut-être de manière sensible, parce que justement, c'est pas. Enfin voilà, je sais que c'est une enquête aussi qui passe beaucoup par de la rencontre, de la pratique, de la discussion, de la découverte, se rendre sensible aux choses, et en ça, je raconte peut-être qu'on. Peut-être qu'on fasse un portrait digestif du
14e. C'est vrai que l'analogie, elle tient beaucoup à considérer la ville comme un système vivant. Essayer de faire attention à ce qui ne se voit pas au premier regard, ou en tout cas ce qui ne se cartographie pas de façon administrative. Donc il y avait un décalage pour moi à faire entre la part administrative des rues, qui était le point de départ de tous les relevés, et puis en arriver à sortir de ce système administratif pour aller vers quelque chose de plus vivant, de plus et de plus invisible aussi. Qu'en termes de constat, il y a des données qui étaient importantes pour moi, qui étaient liées à la fois aux heures et à la météo. On se rend compte que quand on arpente un quartier, s'il fait beau, s'il fait froid, on est le matin ou le soir, ça c'est des choses qui font évoluer et varier l'humain et le vivant autour. Arriver à lister, moi j'ai passé beaucoup par liste, à la fois marche, arrêt et liste. Donc sortir, s'arrêter une heure, deux heures sur un banc public et regarder ce qu'il y a autour. Donc, prendre le temps de pouvoir savoir qui passe, qui y a autour, qui, alors pas forcément qu'en question de personne, hein, est-ce que des pigeons sont là, est-ce que il fait froid, est-ce qu'il y a des nuages, est-ce que tous ces éléments-là qui sont rentrés dans les systèmes de liste, et voir quelle. Alors pour moi, l'idée, ce n'était pas d'en tirer un système dominant, en tout cas pas pour le moment. Donc là, on était vraiment sur la première étape de découverte. Enfin, quand je dis que j'habite pas le 14e, mais je l'ai découvert avec un œil neuf, il y avait vraiment aussi la volonté de garder un regard à la fois étonné et naïf, pour se dire j'arrive et je vais voir ce qu'il y a.
Mais c'est pas la même chose qu'ailleurs ?
Alors non, c'est pas la même chose qu'ailleurs. Alors déjà parce que quand on ne connaît pas, on n'a pas le même regard. Donc il y avait vraiment, quand je vous dis étonnée et naïve, c'est vrai que j'ai fait fi de ce que je pouvais connaître de Paris, ce que je pouvais connaître des rues. J'ai laissé les plans, je les ai sortis, je les ai regardés, puis j'ai laissé les plans de côté. C'était aller au hasard des rues, trouver un endroit à s'asseoir et regarder. Je me suis posée par exemple 2 heures au milieu du marché. Donc pas même sur ce côté évolution des lieux, évolution de ce qui se passe, se poser sur la place du marché le vendredi matin quand il y a tous les marchands. Il y a une impression de monde, de bruit, de rencontres. Si vous y allez le jour d'après, c'est complètement différent. On était dans un moment où aussi... politiquement, la place du marché, elle prenait un sens différent. On était sur des moments de grève, notamment la grève de ramassage des poubelles. Donc sur le marché, être en grève, ça prenait un sens concret, odorant, matériel.
Là, il y a de la fermentation.
des marchands qui revendiquaient aussi leur soutien à la grève ou leur besoin de travailler. Donc ça, ça a été aussi des façons aussi de comprendre la façon dont fonctionnait le quartier. Alors on dit, est-ce que c'est différent? Oui. Enfin, moi, j'ai comparé surtout avec le 18e, puisque je faisais le trajet. Donc, je venais travailler dans le 14e, et j'habite dans le 18e. J'y habite toujours. Dans le 18e, on n'avait pas de... Enfin, les poubelles étaient ramassées, par exemple.
Il y a quelque chose qui m'intrigue tout à coup, ce sont les petits animaux. Je pense aux poubelles qui pourrissent. Bon, il y a des petits animaux qui se chargent de transformer ces animaux. Ils volent ou ils serpentent. Enfin, il y en a de toutes sortes, plus ou moins visibles d'ailleurs.
Bah, ça a permis de rendre apparent finalement aussi le côté qui habite le quartier.
Oui.
Donc effectivement, les habitants du 14e, les passants, les travailleurs du 14e. C'est pas tout à fait, enfin, juste sur les attitudes humaines, c'est pas tout à fait les mêmes attitudes, les mêmes vêtements, les mêmes accessoires. Donc ça permet de pouvoir lister qui traverse et qui habite un quartier. Et les pigeons, les corbeaux, les rats, c'est aussi des habitants du quartier. C'est partie des questionnements en ville. Est-ce qu'il faut cohabiter? Est-ce qu'il faut collaborer? Est-ce qu'il faut... éradiquer, enfin toutes ces questions-là. Et c'est vrai que moi, je ne me suis pas du tout positionnée dans un côté jugement. J'ai relevé, j'ai regardé et j'ai dressé par liste et par attention à certains détails ou à certains éléments de façon naïve. J'ai prêté attention à ce qu'il y avait et c'est cette appréhension sans jugement qui m'intéressait aussi dans cette appréhension du territoire.
Sans jugement.
Parce que du coup, je pose pas de... Enfin, là, on liste collaborer, éradiquer, regarder. J'ai pas fait de choix, en fait, sur ces éléments-là. Et justement, j'ai pas proposé, en tout cas, sur ce qui a été fait au cours de la résidence, il n'y a pas eu de choix de système de fait ou de revendication d'un système à mettre en place. C'est resté sur des constats et des comparaisons de système. Ça répond totalement à tout ce que tu m'as posé comme question.
Il y a peut-être une référence qui pourrait t'intéresser, c'est deux designers qui étaient en projet et qui ont sorti un livre qui s'appelle Terraformer. Et en fait, ils ont une méthode de représentation qui sont cartographiques mais qui n'utilisent pas les normes qu'on connaît. Donc ça va être beaucoup plus libre et ça permet en fait de vraiment décrire un territoire sous tous ses aspects, en parlant à la fois du sol, de la surface. Je te laisserai regarder. C'est Jeanne qui vient de filer la réunion, mais elle a fait un atelier avec eux, donc elle pourra plus t'en parler. Mais je pense que dans cette idée de lier une cartographie avec des choses un peu plus sensibles et des réseaux, des liens, ce bouquin pourrait te plaire, je pense.
Ah, c'est un système qui est circulaire. Ceux qui n'ont pas vu, c'est un système circulaire qui trace beaucoup les circulations et les échanges relationnels qu'il peut y avoir entre humains et non-humains. En particulier de Terraforma, il y a différents niveaux, que ce soit souterrain, sol, hauteur humaine, on va dire, et ciel.
Il faut quand même que je fasse un commentaire global, parce que je suis une petite nouvelle, la générale, hein, et j'y suis entrée par le jardin. Pour des tas de raisons, j'ai transféré des plantes d'ailleurs, ici. Puis ensuite, c'était des objets. Et je continue d'ailleurs. Mais peu à peu, j'ai... rencontrer des tas de gens.
Entrer dans le ventre.
Qui pensent. Ils pensent un tas de trucs. Ils pensent de toutes sortes de façons, mais en même temps, peu à peu, j'ai l'impression que vous êtes quand même tous dans un système de pensée, à la fois avec des variables, mais un peu toujours inspiré de la même formation intellectuelle, je vais dire ça comme ça. Que moi, je n'ai pas ça. J'ai pas vécu comme ça. J'ai suivi quelques études de personnes commerciales qui m'ont servi, certes. Et puis j'ai vécu Je me suis bagarrée, j'ai monté ma petite boîte, je suis devenue maquettiste, mais j'ai fait d'autres métiers. Bref, j'étais une aventurière, mais je n'ai rien pensé du tout. Jamais. Ça n'existe pas pour moi, ce monde-là. Donc, il est difficile pour moi.
C'est vrai qu'on est rentré sur des choses qui sont...
C'est l'approche plus pragmatique, tu veux dire. Plus direct avec...
Vous êtes tous plus ou moins universitaires ici. Vous, sûrement. Toi, je sais pas.
Moi. Après, on fait de l'aventure aussi. Hein. On a des terrains en tant qu'universitaire.
J'ai jamais été dans une université, mais je suis étudiante quand même. Elle est étudiante quand même. Et toi, je ne sais pas.
Universitaire.
Toi aussi, toi. Bah,
ouais, alors ouais. Peut-être on peut refermer cette jolie parenthèse parce que justement moi il y a un truc justement pour répondre à ça, c'est que quand tu étais venue pour l'émission de radio un premier samedi du mois, tu m'avais parlé de la vache et de de son système digestif qui justement permettait de penser à partir de quelque chose de très concret. Disons notre relation à la nourriture, au monde et à la nourriture industrielle et à la nourriture locale justement. Et tu m'avais fait découvrir l'idée que finalement la raison pour laquelle le camembert n'est fait que dans la région du camembert. Et moi je pense que ça c'est vraiment un objet hyper concret et pratique qui permet justement de penser un peu toutes ces relations et j'aimerais bien que tu y reviennes là, parce que je pense que ça serait pas mal.
Alors, c'est vrai que c'est toute la genèse du projet. Moi, je suis partie de choses extrêmement pragmatiques en fait au départ. Donc, ça a pris une tournure de discussion autour plutôt des concepts, mais la raison de démarrage du projet, c'est vraiment comment on mange et là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Pourquoi on se retrouve avec un système industriel de production? Est-ce qu'il est bien, pas bien?
Pourquoi on mange aussi?
Et je me suis intéressée principalement au départ au lait et à la viande, avec du coup la figure de la vache qui est apparue dans ce paysage alimentaire. La vache qui, du coup, produit du lait et des fromages ou qui est élevée pour la boucherie. Et donc, j'ai découvert en disséquant la vache qu'elle avait 4 estomacs et que, du coup, ce système de digestion, c'est un système de fermentation. Voilà le lien qu'a fermentation et toute la suite. Donc, la vache, elle a 4 estomacs qui lui permettent... du coup de filtrer et de digérer de façon extrêmement qualitative l'herbe de son pâturage et toutes les propriétés de l'herbe qu'elle mange se retrouvent dans son lait. Ça c'est du coup finalement ce qui donne le goût à nos fromages, tous les fromages qui sont produits de façon artisanale et locale. Tiennent de ces conditions-là. On peut citer le Salers, par exemple, qui est un fromage d'été et qui est lié aux vaches du massif central qui vont dans les hauts alpages à l'été et qui vont du coup donner un goût de fleurs et de plantes à leur lait et du coup de travailler ce goût spécifique au Salers.
C'est aussi une terre particulière.
Et puis aussi entre l'été et l'hiver.
Tout est lié aux micro-organismes.
Non, mais l'hiver, elle mange du foin.
Bah, du coup, ce n'est pas les mêmes micro-organismes sur le foin que sur les plantes.
Oui, mais le foin et l'herbe fraîche, ça n'a rien à voir. Il y a le fromage. Non, mais il y a le fromage d'été et le fromage d'hiver. Hein. C'est pas du tout
les
mêmes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, ce que je veux dire,
on est bien, c'est pas fini. Je crois qu'il y a un bout d'histoire qui nous manque. On va te laisser
parce que la terre a une qualité particulière. C'est une histoire particulière, c'est une montagne. Et une montagne qui a été...
Si on part du principe que les micro-organismes sont présents sur les plantes, dans la terre, dans l'eau et dans l'air, effectivement, chaque région et chaque herbe va avoir ses micro-organismes particuliers. Donc, comme si la vache, elle les ingère et qu'elle les digère, elle va donc travailler sa digestion et produire une digestion qui est particulière à chaque lieu et à chaque région. C'est pour ça qu'on a du salaire, du camembert, de l'atome et autres fromages. Enfin, on en a plein de quantités en France.
Donc, un micro-organisme... J'ai besoin de comprendre. Vous parlez de micro-organismes. Il y en a combien comme ça?
Toutes les 5 minutes, parce que sinon, on n'a pas la fin des développements. Donc, en fait, ça s'arrête. Alors, je veux bien qu'on pose des questions, mais il faut le dire, à un moment, il faut être un tout petit peu patient. Puis, tu sais, les questions, c'est... Tu vois, il faut attendre que les développements soient finis. Ouais. Je sais, mais voilà, c'est un petit jeu de patience.
En plus, vous avez
un carnet qui ne me sert à rien parce que j'ai des questions là arrivent sans cesse.
Ah, les micro-organismes, il y en a plein. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, c'est ce que je vous disais au début de la présentation. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre à toutes les questions on va dire, d'ordre scientifique. Les micro-organismes, il y en a énormément. On en a tous partout en très très grande quantité. Et j'avoue que je suis incapable de vous donner en plus ce genre de précision-là. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le principe en fait, de fermentation et de localité. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la vache, avec ce système de digestion-là, elle va élever ses bactéries dans son estomac. Moi, c'est un système qui m'a passionnée. J'avoue que le côté... au départ, donc, je suis rentrée par l'alimentation, la digestion, et je me suis dit, en fait, elle digère et tout va dans le lait. Nickel. Puis en fait... Quand j'ai creusé, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la vache, elle devient presque une usine de fabrication et de conservation fermentaire. Elle élève en fait dans ses estomacs des micro-organismes qui lui permettent de digérer les plantes qu'elle mange. Et elle-même, elle va non pas manger les plantes, mais manger ses propres micro-organismes qu'elle élève. Donc ça en fait un animal qui n'est pas spécifiquement... herbivore, mais un animal qui, je ne vais pas oser dire carnivore, mais qui... En fait, elle se nourrit, elle s'alimente des micro-organismes qu'elle élève. Et elle ne mange de l'herbe que pour nourrir ses propres micro-organismes et faire fonctionner son système digestif. Donc elle a une compétence, une capacité qui est assez incroyable, puisque du coup, elle se chauffe par ce biais-là, une vache... c'est entre 37 et 40 degrés suivant les périodes, mais elle n'a pas de système de régulation énergétique. Elle va se chauffer grâce à son système digestif et à la chaleur que produit son corps par la fermentation. Elle va trouver toute l'énergie nécessaire à déplacer sa masse corporelle. Une vache, c'est quand même entre 600 et 800 kilos de l'herbe. C'est compliqué pour produire autant d'énergie corporelle. Et elle va... du coup, trouver cette énergie-là dans la digestion de ces micro-organismes. Donc, on se retrouve avec un système d'élevage à l'intérieur d'un corps vivant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au cours de la recherche menée sur les vaches et la fermentation et qui a vraiment changé ma vision de l'animal. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais arriver. Et c'est vrai que du coup, j'ai appelé la vache un système ultra-qualitatif de fermentation. C'est vraiment ce point-là qui m'intéressait comme système, à la fois comme système fermentaire et aussi comme système d'alimentation. Et se dire que si elle arrivait à la fois à se chauffer, à élever de façon qualitative et durable, parce qu'il lui était propice à sa nourriture et à sa survie, comment nous, on arriverait à réagir en copiant ce modèle-là regarder au regard de la vache, comment arriver à gérer nos problématiques écologiques pour demain.
Je travaille sur la question de la domestication de bovins au Népal, donc la question du lait, de sa fermentation, de la transformation des produits issus du lait qui assez longtemps et il y a un fait, je pensais que tu allais y venir, mais tu en es venu à quelque chose d'aussi intéressant. intéressant. La seule raison pour laquelle le fromage coagule, c'est parce qu'on se sert de présures et qui elle-même, on a utilisé déjà des présures végétales. Les plus répandues viennent de l'estomac de la vache, c'est une présure animale, et pas de n'importe lequel, du quatrième. Alors, pourquoi pas du premier, du deuxième, du troisième, mais du quatrième. Il y a effectivement ces correspondances qui s'effectuent entre nos animaux, la fermentation. On utilise la fermentation du produit de la vache pour transformer nous-mêmes le produit qu'elle-même a engendré et qui nous permet de le consommer tout le temps et d'en faire un vrai moyen de subsistance parce que le lait frais, ça se perd vite.
L'origine, je ne sais pas, moi j'avais cru entendre que l'origine du fromage était justement on avait des panses animales pour conserver de l'eau, enfin pour transporter de l'eau. Du lait quand on se déplaçait.
Transporter du lait et comme il y avait déjà des micro-organismes à l'intérieur.
C'est comme ça que le fromage est par accident.
Ouais, c'est la fermentation de la vache qu'on utilise quand on consomme le fromage.
C'est vrai que tout système de fermentation est un système de conservation et que en fait, toute l'histoire en fait, de notre alimentation elle tient à conserver nos aliments d'une saison à l'autre, conserver le plus longtemps possible les denrées pour pouvoir subvenir à nos besoins.
Et je me demande si je pas revérifier, mais il me semblait quand même que on parle de la caséine, par exemple. La caséine, c'est...
Protéine du lait.
Protéine du lait. César, en fait, le maître fromager, ce que j'ai cru entendre, c'est que celui qui est capable... Non, mais le mot lui-même est lié à César, en fait. C'est-à-dire que celui qui est capable de faire du fromage, le maître fromager, il est capable de mener des guerres et d'amener de la nourriture avec lui et de mener des campagnes. Voilà. C'est vrai ou pas?
Je ne sais pas pour le nom de César, mais De Gaulle a dit on ne gouverne pas un pays aux 170 fois.
Non, je crois que c'est véridique. Hein. Je crois que c'est véridique. D'ailleurs, j'avais cru entendre aussi que la bière, chez les Égyptiens, c'était un aliment de conquête aussi, pour mener des campagnes guerrières également.
Il y a multiples histoires autour de la fermentation, et c'est ça qui est intéressant en tant qu'artiste, parce que c'est vrai que on se dit que c'est un travail qui est entre art, design et science, et c'est vrai que toutes les questions scientifiques, moi j'ai pas les réponses à tout, et on voit bien que les échanges en fait sont plus porteurs d'informations que juste ce que je peux vous dire moi, mais la part artistique elle tient aussi dans les imaginaires que ça crée, dans les histoires qui peuvent se tisser autour de justement de ces relations à l'alimentation, relations à la conservation, aux échanges et à la production alimentaire.
Ou alors des graines aussi, il y a du partage de graines et puis de codes, et puis dans d'autres domaines aussi. Est-ce que dans la fermentation, il y a du partage de bactéries, de ferments, de petites choses
on pourrait parler de partage de micro-organismes, ça se fait beaucoup sur le kéfir, le kombucha. Par exemple, on donne les souches, hein, même paraît que ça ne s'achète pas, il faut absolument les récupérer et les donner. C'est un système de troc d'échange qui pourrait se rapprocher de la question du libre et du commun. Il y a aussi une version plus normative. En fait, aujourd'hui, on recense les micro-organismes, on les répertorie. On est en mesure, on va reprendre la question du fromage, on est en mesure de créer des fromages de toutes pièces, en dehors de toute localité, à partir d'un lait stérilisé d'ajouter des ferments existants et de composer un fromage, même un fromage qui n'existerait pas, qui est en totale inadéquation avec aucun territoire.
Tu veux commencer la FFF?
Parlons-en.
Fermentation Foundation.
Et il y a un autre partage quand même, on parle du partage des micro-organismes, mais il y a un autre partage qui est quand même le partage de la recette.
Emmanuel, il était de la FFF. C'est ça, Free Fermentation
Foundation. C'est lequel,
la Foundation, mais il s'échange des ferments,
Il fermente, tout simplement. Et c'est là où la question de l'échange elle a différents sens. Est-ce qu'on partage les micro-organismes? Est-ce qu'on partage les bocaux? Est-ce qu'on partage les recettes? En fait, c'est trois niveaux de partage qui peuvent se créer entre le côté complètement expérimental d'une fermentation et le côté ultra maîtrisé. Enfin, dans cette échelle, il y a tout un tas d'étapes qui peuvent se mettre en place.
Parfois aussi, tu peux faire du partage de ferment entre vaches. Ça, c'est une histoire que mon père m'a racontée.
Quand
tu les vaches, les vaches, parfois, quand elles ne mettent pas, et puis qu'elles passent en mode lactation, et qu'elles ne font pas d'exercice, elles développent une maladie. Et puis, en gros, elles digèrent leurs propres muscles, et si ça dure trop longtemps, c'était le vétérinaire à l'ancienne qui avait raconté à mon père qu'il fallait. C'est un signe particulier quand elles sont comme ça, elles ont la laine qui sent la paume. Ça fait un signe. C'était des petits paysans qui n'étaient pas très riches.
La paume.
Le veto, ça coûtait cher. Donc il le donnait aux petits paysans, les astuces comme ça. Et puis il leur avait dit prends une boulette tu mets dans la bouche d'une vache saine.
Finalement, ça nous permet de faire le lien peut-être avec le dernier aspect des fermentations dont on n'a pas du tout parlé, c'est le côté sain. Sain à la fois comme ce côté soigné. Là, dans ton exemple, c'est le... de remède aussi qui est apporté d'une... être vivant à un autre être vivant, et finalement on se rend compte aussi que pour nous aussi, hein, manger fermenté, boire fermenté, c'est bon pour notre microbiote, c'est bon pour notre santé. Si on veut d'autres anecdotes, la choucroute, ça a été utilisé sur les bateaux pour apporter de la vitamine C aux marins. C'est toujours un système de conservation et d'amélioration du goût et de la composition des aliments, qui est aujourd'hui aussi une question écologique et essentielle pour notre alimentation dans le futur. Comment manger bien, comment manger sain et comment manger façon à être en bonne santé.
Et est-ce qu'une fermentation, ça peut, entre guillemets, mal se passer? Un bocal mal fermé qui, du coup, fait qu'on ouvre 3 mois plus tard et ça n'a pas envie, quoi. Parce que, en soi, j'ai l'impression que ça peut être, du coup, un mode de conservation qui peut être parfois... on ne conserve pas tous les aliments de la même manière, mais parfois plus risqué que le séchage ou le salage ou je ne sais pas ce que c'est de là à
dire. Alors, c'est pas plus risqué. Après, là on revient sur le côté recette. C'est standard des ferments. L'idée, c'est de faire développer donc des micro-organismes et des bons micro-organismes. Pour ça, en fait, il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Alors, la solution radicale, c'est de stériliser, tout tuer. Là, on prend l'aliment, on tue tout. Tout ce qui est micro-organisme local, on éradique et on ajoute celui qui a été calibré, conservé et dont on sait... Le goût correspondra à ce qu'on veut. Donc ça, c'est aussi c'est à la fois une dérive et une tendance nécessaire. À un moment, il a fallu aussi se poser la question des intoxications et de pouvoir faire quelque chose à la fois de sain et rentrant dans les normes de production actuelles. Si on va un tout petit peu moins vers ce standard-là, on peut favoriser en fait, le développement des bons micro-organismes. À partir du moment où il y a un micro-organisme qui va dominer dans le bocal ou dans la bouteille, les mauvais ne se développeront pas. Donc, comment arriver à faire en sorte que le milieu soit favorable? Donc, il y a quelques règles d'hygiène et quelques trucs et astuces. Je parle plus de trucs et astuces que de recettes, parce que finalement, il y a encore multiplicité d'expérimentations à faire à partir de... juste des règles de base. Donc quand on veut travailler sur des lactofermentations et avoir un ferment lactique qui se développe, on va saler pour empêcher les micro-organismes nocifs et on va fermer le bocal de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air, donc fermenter en anaérobie. Sur le vin, c'est un peu différent. Du coup, on veut un développement des levures pour digérer les sucres et faire de l'alcool. Donc là, pareil, on va essayer de favoriser... le démarrage des levures. Moi, je me suis vraiment posé cette question dans le cadre de la résidence, parce que l'idée, c'était de pouvoir vous partager les vins réalisés. Ils sont d'ailleurs sur la table. Et, enfin, on en a bu un peu chacun. Donc l'idée c'était d'intoxiquer quand même personne. Et c'est là où la peur qu'on peut avoir face aux micro-organismes, elle dose en fait ce qu'on veut faire. Donc moi j'avoue, j'ai rajouté du sucre dans les démarrages pour être sûr que ça soit les levures qui partent et pas autre chose. Donc quand on goûte les différents vins, on constate que le vin de fenouil il est encore très très sucré, que le vin de poire qu'on a dégusté au moment de Futur Parfait, il était sur un mix entre un peu de sucre mais un goût qui ressemblait quand même un peu à de l'alcool, et aujourd'hui il est passé vers quelque chose qui est plus alcoolisé. C'est quand même, ça reste léger, mais les sucres ont été digérés. Donc c'est un dosage entre nos peurs et le respect de quelques principes de base sanitaire. Après, une mauvaise fermentation, on le sait souvent très très vite, ça sent très mauvais, très 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 mauvais, au point où vous ne vous sentez même pas de goûter. C'est vrai que ça change, enfin, on parlait au niveau du quartier de changer le regard et de pouvoir retrouver certains détails ou retrouver un regard nouveau sur un quartier. Il y a dans cette méthode de se dire on laisse se développer les micro-organismes qui sont sur un aliment, on laisse faire aussi cette attitude de dire on va peut-être essayer de redécouvrir une relation avec des micro-organismes en dehors de toute la stérilisation industrielle et des normes d'aujourd'hui, et peut-être essayer de retrouver des choses qui étaient en place dans des pratiques domestiques il y a assez peu de temps en fait.
Sur la santé, fermentation et santé, comme Emmanuel n'est pas là, je rapporte ce qu'il nous avait raconté, qui est quand même vachement intéressant. Comment, le point de départ, lui, c'était pour nous parler de certaines variétés de pommes de terre transgéniques pour développer des produits plus sains pour la santé par rapport à la friture, à la production de frites qui sont cancérigènes. Et nous informer que on avait le même résultat en faisant fermenter légèrement des pommes de terre avant de les faire frire. Ça réduisait considérablement le risque de cancérigène des frites. En les faisant fermenter. Donc, on les fait fermenter légèrement avant de les frire et quand même, ça réduit considérablement le.
Et fermenter comment ?
Je sais pas.
Ça me rappelait, alors c'est très universitaire pour le coup, mais je sais pas si tu connais Alice Doublier peut-être, mais ça pourrait t'intéresser si c'est pas le cas, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la fermentation du saké et les rapports sociaux que ça inclut et les chaînes opératoires dedans. Et c'est très cool. Bon, c'était juste pour cette référence, si jamais. Et ça me rappelle deux choses. Il y a déjà que pour le lait, là, c'est assez chouette parce qu'en préhistoire, c'est très localisé en fait. C'est vraiment en Europe au début. Et donc, c'est un choix aussi de se mettre à alimenter comme ça, de conserver de cette façon-là. Et après, ce gène-là se répand un peu dans le monde entier. Mais c'est assez rigolo, enfin, je pense, tu vois, dans le cadre du design et de l'art, de proposer un choix. C'est un choix culturel qui s'est ancré dans la génétique. Et qui est très récent pour digérer le lait. Ouais. Et les fermentations, même un peu de manière générale.
Il y a effectivement des populations africaines, nord-africaines, et d'ailleurs noires africaines, qui ne digèrent pas à l'âge adulte le lait. Ouais.
Et en Chine, avec la bière, ça se passe difficilement aussi.
Ah bon ?
Pour les mêmes raisons, ouais.
Si je peux modérer juste ce point-là, en Afrique, il y a des populations voisines qui digèrent et qui ne digèrent pas comme l'homme. C'est très sporadique la répartition.
Oui, oui,
j'essaie d'être très génétique de la fermentation. C'est pas
uniforme. Il y a un blocus au départ qui est impressionnant.
Un produit qu'ils ne sécrètent plus, qui fait qu'ils ne vivent plus. J'ai oublié le nom
de la question.
Un enzyme quelconque, oui, qui les empêche de
digérer. Tu ne digères plus. Même nous, si on arrête d'en boire pendant 15 ans, c'est compliqué. Et le dernier truc, je ne me souviens plus du nom, mais je pourrais le retrouver. C'est une brasserie, donc eux c'est de la bière, et ils tapissent tous leurs murs de levure sauvage pour faire leur bière, qu'ils laissent fermenter pendant 2 ans ou 2 ans et demi, je crois. C'est du luxe, mais c'est assez dégueulasse. Mais par contre, il y a cette idée-là de laisser vivre vraiment, c'est très chouette comme truc. Voilà, c'est les trucs auxquels ça me fait penser. Mais ouais, je retrouverai ça tout à l'heure.
Moi j'avais une autre petite remarque, parce que j'ai l'impression que le travail n'est pas fini et que tu es encore
l'émission. On avait essayé de brasser de la bière tous les deux une fois et on se racontait des histoires comment est-ce que ça pouvait se fermenter avant qu'on ait cette levure qu'on achète aujourd'hui en poudre qui a été préparée justement, isolée, pour être sûr et stérilisée, pour être sûr que la bière fermente comme on en a envie. Et que la levure qu'on utilise a déjà un impact énorme sur le goût. Et on se racontait un peu des histoires préhistoire où avant la fermentation de la bière, elle est très ancienne. Enfin, la bière est une boisson très ancienne, mais qui était fermentée au gré des vents qui étaient placés sur les toits. Apparemment, les genres de fermentation de bière étaient placés sur les toits des maisons et fermentés au gré des vents par les levures sauvages et la fermentation sauvage. Et du coup, j'y pensais par rapport au quartier et au 14e, est-ce qu'il n'y aurait pas des lieux de fermentation plus propices à la fermentation que d'autres à l'intérieur des quartiers qui prennent les vents, qui prennent certains micro-organismes avec eux et qui permettraient de mieux fermenter ou de le faire de façon plus... de trouver d'un coup des fermentations qui viennent d'elles-mêmes. Voilà. Et de même pour l'alimentation, enfin, pour le lien avec l'alimentation, est-ce qu'il y a des fruitiers dans le quartier, par exemple, dans lequel ça pourrait être des indices, quoi. Sinon, je me disais, en termes de trajectoire cartographique, les insectes, les mouches consomment énormément de fermentation. Dans les fruits, les abeilles, les guêpes, etc. Mais aussi dans les décompositions. Et donc, des trajectoires de mouches à la recherche de points de fermentation, je trouve ça... C'est ce que ta présentation...
Ça peut être un bon indicateur.
Ce que j'aime, c'est les efforts que ça construit.
Oui.
Ouais. En tout cas, c'est une recherche qui est en cours, effectivement. Enfin, moi, c'est mon travail de doctorat, en art et design. Donc, c'était toute la question de pouvoir se positionner en tant qu'artiste et designer sur une pratique qui est suivant comment on la considère, soit pas la mienne, hein, parce qu'elle est très spécifique, soit domestique. Enfin, tout à chacun, aujourd'hui, développe des fermentations par... quelques bocaux, un peu de kombucha, un peu de kéfir, des choses qui sont faites à la maison. Donc c'était à la fois une interrogation du système alimentaire, du système industriel qu'on a aujourd'hui, qui prend la forme, en tout cas pour le moment, d'une recherche en cours autour de systèmes de cartes et d'expérimentation à déguster. Mais je trouve ça... moi, la grande question aujourd'hui qui m'a habité, c'est qui m'habite toujours, c'est finalement en quoi ça constitue une pratique de designer et vers quoi je mène cette pratique pour arriver à pas forcément à un projet fini. Enfin, je trouve que cette question d'un produit fini ne me convient pas tout à fait, mais comment ça peut arriver à recréer d'autres imaginaires ou d'autres histoires autour de notre alimentation. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de... Enfin, le travail de recherche qui est en cours, ça a été donc à la fin de cette résidence, mais aussi beaucoup de rencontres, d'interviews de personnes qui mettent des fermentations mais comme métier, les producteurs de vin, de cidre, de fromage, de cornichons et autres fermentations, mais où quand finalement leur métier, ils mènent à la fois cette réflexion sur les levures indigènes, la façon de mener leurs recettes, la façon de produire un goût, constant ou pas constant en fonction de leur production, des AOP, des normes qui dirigent leur métier, comment gagner leur vie à partir de ça. Donc ça, c'est aussi des choses qui ont traversé nos discussions et qui m'interrogent sur quel positionnement moi j'ai en tant qu'artiste et designer à côté d'eux ou face à eux sur ce que je peux produire comme discours sur la fermentation.
Parce que ce que tu dis, justement, là, ça me fait penser au côté inverse que tu as dû voir peut-être, mais... ça crée aussi des espaces très fermés, dans le sens où tu as des levures de bière, où tu n'as pas le droit de les faire sortir du pays. Genre en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est interdit de revenir avec les levures, parce que c'est produit du terroir, du territoire, et on pourrait les revendre un peu sous le manteau derrière. Et du coup, je trouve ça marrant qu'il y a ce côté très ouvert de la fermentation, et dans l'inverse du local, la fermeture du territoire, c'est comme si c'était un sujet critique, alors qu'elle passe partout tout le temps, comme tu disais.
Chacun a les siennes, on parlait des cultures et du développement de la fermentation. Moi, ce qui m'a passionné aussi, c'est le côté très domestique, voire féminin. La bière, au départ, elle avait la spécificité d'être fabriquée en même temps que le pain par les femmes sur le bord du fourneau. les vins, et notamment ceux qui sont faits là, il y en a deux qui sont issus de recettes. Il y a un livre de recettes de tous les vins qu'on peut produire avec les restes alimentaires de chez soi ou avec les légumes du coin, et comment ce vin il vient compléter ou améliorer la cuisine de tous les jours, le goûter, le voilà, pimenter un peu l'eau, et l'eau qui peut d'ailleurs être source de micro-organismes mauvais si elle est juste puisée. Donc il y a tout ce système là que j'ai trouvé intéressant, et puis les codes et hiérarchies que ça produit. Enfin, si on prend l'histoire de la bière, de la femme qui va faire sa bière chez elle pour la famille, en fait, enfin, vraiment une production domestique, jusqu'à l'appropriation de la recette dans les abbayes, et puis après l'émergence d'un savoir-faire commercialisé d'usine dans la bière.
C'est l'ingrédient commun,
oui.
C'est
le malt, le blé au départ, et puis après c'est la question de démarrer, du starter de la fermentation. Il peut y avoir plein de choses. On peut fermenter, c'était un peu les questions qui étaient soulevées. Qu'est-ce qu'on met pour faire partir la fermentation? Ça peut être du levain, ça peut être certains pays où on crache dedans pour faire partir la bière. Des essais qui ont été faits avec des prélèvements corporels, avec des fruits et un démarrage de fermentation sauvage, et jusqu'aux levures ultra rapides vendues aujourd'hui en commerce. Les femmes, elles ont fait beaucoup de choses. Puisque du coup, elles étaient. Ça peut le prendre dans tous les sens. Heureusement ou malheureusement, elles étaient responsables de la gestion du foyer et de l'alimentation de la famille. Donc, elles ont eu la responsabilité de beaucoup de pratiques, en fait, liées à la cuisine, de tout ordre.
Avec de la noix, avec des tas de fruits. Et ma mère faisait ça. J'en ai toujours d'ailleurs. C'est très, très sucré.
Et c'est vrai que c'est remettre aussi en avant une pratique qui est, on parlait de low-tech et artisanale, on peut même aller jusqu'à une pratique de subsistance, en fait, remettre sur le devant de la scène une revendication d'une alimentation. Qu'on ferait à la maison, qu'on ferait à la main, et toutes les questions que ça peut poser, du temps que ça prend, de la place de la femme, de la place de tous ceux qui vont fermenter à la maison, parce que ça s'est un peu décalé quand même aujourd'hui dans la question de qui fait. Mais si on fait chez soi, soi-même, ça prend du temps. Est-ce que du coup, quel système on peut reconstruire à partir de ça? Est-ce qu'il faut. Et justement, ça repose l'action de se resserrer sur une autonomie. Est-ce qu'on se resserre et qu'on fait tout à la maison? Est-ce qu'on échange? Est-ce qu'on mutualise? Tout ça sans tomber dans un système d'échange capitaliste. Vaste question.
Et du coup, en termes de design pur, c'est du coup un peu plus éloigné de mon domaine, je connais plus le design d'objet, mais tu t'orientes vers quel. Ta question de design, disons, c'est quoi? C'est le design d'espace ou d'intérieur, ou ça n'a rien à voir avec tout ça?
Moi, je me suis intéressée plutôt à des pratiques de design de service ou de design des organisations.
Plus proche de l'ergonomie, ouais.
Plus proche de la relation des systèmes, en fait. Donc, comment on pourrait construire un nouveau système alimentaire?
Okay, trop bien. Oui, du coup, ça fait sens avec
l'étude du quartier.
Oui,
l'empilage de couches. Presque de calque, en fait, où je viens superposer la représentation administrative, la représentation de circulation, la représentation de l'eau et représentation imaginaire.
On va peut-être clore la présentation maintenant, puis passer à la dégustation.
À boire un coup, ouais. Pour l'essentiel.
Prendre l'antenne et puis.
Ce soir, j'ai vu un truc en juillet, je passais vraiment par hasard.
C'est parfait. La fermentation, c'est un jeu de hasard, c'est super.
Donc on va sortir un peu les plats et puis continuer de manière informelle la discussion.
Moi, je vais prendre toutes vos super références.
Merci Gwenaëlle.
Merci à vous.
Merci.